Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Aujourd'hui, la patate douce fait de plus en plus d'adeptes.
Vous connaissez les patates douces?
Bah oui, c'est des patates douces.
On la surnomme patate puisque, comme la pomme de terre, on consomme les tubercules, mais elles n'ont rien à voir ensemble puisque c'est une variété d'hypomée.
Dans ce restaurant de burger, elle fait désormais de l'ombre à la frite de pomme de terre.
J'aime bien tout ce qui est un peu sucré, donc...
Ça fait partie des 8 légumes les plus énergétiques. Il y a plein de vitamine A, de vitamine C et de fibres. Donc avec une patate douce, vous avez fait le plein d'énergie pour la journée.
Sucrée, salée, la patate douce n'a pas fini de nous surprendre et de s'inviter à la table des Français.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster. On hésite sur ses origines, on ne connaît pas grand-chose de son histoire, on n'en trouve pas trace dans notre répertoire gastronomique et pourtant, ce légume entame une carrière sur les chapeaux de roue dans notre cuisine du quotidien. C'est la patate douce, un peu de douceur dans ce monde de patates. J'ai piqué le slogan à Xavier Mathias, bonjour.
Bonjour.
On ne vous présente plus, cher Xavier, vous êtes notre pote du potager, formateur en maraîchage et en permaculture. Vous êtes arrivé comme d'habitude les bras chargés, allez, combien vous les avez décomptés, le nombre de variétés de patates douces, là?
Oui, un petit remerciement au château de Valmer, du coup, puisque c'est eux qui ont cultivé cette collection de 9 variétés différentes de patates douces, plus une patate douce que moi j'adore avoir à la maison en feuilles, qui va me permettre de prélever des boutures et de multiplier moi-même la patate douce de variété Sakura.
On va voir que la patate douce, elle fait tout. Ça peut être une plante d'intérieur, un légume, ça peut être également, on peut la consommer pour ses feuilles. Enfin, c'est vraiment un légume formidable. Vous allez nous raconter comment ce légume s'est acclimaté sous nos latitudes et pourquoi il a autant de succès aujourd'hui. Pour cuisiner la patate douce, on accueille une vraie fan de ce tubercule. C'est Angèle Ferremac. Bonjour.
Bonjour tout le monde.
Comment ça va, Angèle?
Ça va très bien. J'ai la patate.
Vous avez la patate et j'espère que vous êtes douce aussi. Ça fait un moment que vous n'étiez pas venue au micro dont on va déguster. Vous êtes une habituée. Vous avez fondé la Guinguette d'Angèle, des super comptoirs parisiens où vous pratiquez une cuisine végétale mais pas triste. Une cuisine vraiment végétale et inspirée, très vitaminée, très équilibrée. Vous écrivez des livres de cuisine dont le dernier, Bon, Simple et Sain, aux éditions Marabout, un super petit ouvrage. Et vous faites également des recettes et de nombreuses découvertes sur le compte Instagram de la Guinguette d'Angèle que j'aime beaucoup. Et la patate douce est un de vos légumes chouchou. Vous allez, vous allez nous montrer des recettes assez éblouissantes.
Je vais vous montrer parce que c'est vrai qu'avec la patate douce, on peut faire plein de choses, l'utiliser en légumes, en fruits, en dessert, en plat, en condiments, en boisson, en tout.
C'est un légume étonnant. Pour fluidifier cette émission, pour trinquer aussi accessoirement avec nous, on a le plaisir d'accueillir notre chroniqueur vin, Antoine Gerbel. Bonjour Antoine.
Bonjour François-Régis.
Petite énigme aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, nous allons découvrir que la champagne n'a pas forcément besoin de bulles pour se faire mousser.
Ah, et on est pourtant en champagne sans bulles. On va voir ça tout à l'heure. De très belles cuvées découvertes par Antoine Gerbel. Aimez-vous la patate douce à la maison? Comment la cuisinez-vous? Envoyez-nous vos remarques et vos questions sur notre mail onvadéguster@radiofrance.com ou bien cliquez sur le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. Tous les contenus de cette émission, coup de cœur, recettes, podcasts, sont à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster. Mais juste avant de croquer dans la patate douce, une petite escale à Orléans pour vous faire découvrir une très bonne adresse.
France Inter, On va déguster avec François-Régis Gaudry.
Bonjour, bienvenue à De Sel et d'Ardoise. Donc aujourd'hui, nous avons en suggestion à picorer et à partager des rillettes de poisson fumé aux herbes et au yaourt à la grecque. Et on a donc un bœuf confit en plat du jour, en version végétarienne avec un œuf poché. Et on peut le remplacer par une épaule d'agneau confite, un petit peu tomatée.
Je me suis attablé il y a quelques jours à Orléans. On est dans le 45, département du Loiret. J'y ai fait un détour car ça faisait un petit moment qu'on me parlait d'un très chouette bistrot gastronomique. Ça s'appelle De Sel et d'Ardoise. Et cette petite table est solidement installée tout près du centre-ville. Le Sel, c'est le Normand Maxime Voisin qui est en cuisine. Et l'Ardoise, c'est sa femme Claire en salle, qu'on entendait justement à l'instant, d'origine ardennaise. Oui, parce que les Ardennes, c'est la grande région de l'Ardoise. Peut-être le saviez-vous. Derrière une façade couleur ardoise, justement, 12 couverts au coude à coude. Beaucoup d'habitués, une belle humeur décontractée. J'y ai fait un déjeuner parfait. Dans sa bienveillance, dans sa générosité, ses saveurs précises, ses tours de main affûtés, normal, Maxime Voisin a été formé dans de grandes maisons et notamment à l'Arpège. du fameux Alain Passard. Qu'est-ce qu'il mitonne dans son bistrot, Maxime Voisin ? Eh bien, je lui ai tendu le micro en cuisine.
Des petites choses à picorer, des falafels, des petites tartinades, par exemple là, haricots blancs, confiture de citron, avec des petits crackers maison. Et puis voilà, les entrées, des truites marinées avec blinis de sarrasin, des choses entre guillemets assez simples, mais à travailler tout maison au moment, à la minute, donc on se fait plaisir avec ça.
Ça fait combien de temps que c'est ouvert de Salé d'Ardoise ?
6 ans. Une belle évolution, des changements par rapport à l'ouverture. Bon, on est toujours deux avec Claire. On a évolué au fil du temps, des choses qui se sont passées ces dernières années. Et voilà, aujourd'hui, on est plus restaurant boutique et on propose vraiment le restaurant à emporter. Dans l'idée des bocaux recyclables, réutilisables, zéro déchet, pour toucher aussi plus de monde. Des restaurants comme nous, où on cuisine que du frais, on a besoin que les gens précommandent pour qu'on puisse s'adapter et qu'on puisse faire au plus juste. On jongle, on saute d'un pas à l'autre, Claire aussi, qui s'occupe de la pâtisserie en parallèle. Donc les journées sont bien remplies, mais voilà. Après, les clients sont au courant que pendant les heures de service, entre midi et deux, ils évitent de passer parce que sinon ils risquent d'attendre et nous, ça nous met un peu dedans. Mais c'est surtout le samedi matin où c'est un gros afflux de 10h à midi.
Et là, vous préparez quoi ?
On prépare le bœuf confit, la purée de potiron. La sauce, voilà, c'est une famille qui fête l'anniversaire de leur petit enfant de 3 ans ce soir, donc ils se sont dit, on va prendre en portée, on va faire ça à la maison. Les gens ont un peu redécouvert leur chez eux, et du coup, on continue de fonctionner, mais sous une autre forme, on va chez eux, c'est plus trop eux qui viennent chez nous, et encore, je pense que c'est pas la même cible de clientèle qui maintenant prend en portée pour la maison. C'est des gens qui allaient pas forcément souvent au restaurant, peut-être pour une occasion très particulière, mais maintenant, un anniversaire d'un enfant, c'est devenu un événement, donc du coup, ils se font plaisir à prix correct.
Maxime et Claire Voisin à Orléans, un très bon exemple de restaurateurs qui ont su réorienter leur offre et leur organisation depuis la crise sanitaire. Tout le milieu de la restauration, évidemment, a été touché. Je me tourne vers Angèle Ferromag, fondatrice de La Guinguette d'Angèle. Vous aussi, j'imagine que La Guinguette d'Angèle ne vit pas de la même manière aujourd'hui qu'avant les crises sanitaires que l'on a connues et qu'on connaît encore.
Pas du tout. On a tous été très bousculés, mais on a réussi pour la plupart d'entre nous à prendre ça comme une chance et à mettre, alors ça peut paraître paradoxal, mais plus d'humains et plus de digital. C'est assez étrange, mais en fait, on a favorisé les liens humains en donnant plus de cours, en créant des réseaux, etc., en apprenant aux gens à faire à la maison, et en même temps, on donne aussi des recettes sur Internet, sur les réseaux sociaux et tout ça.
En se réinventant, finalement.
Complètement. Quand on a pu profiter de cette chance, et puis on a eu du temps aussi, donc revoir les producteurs, nos façons de faire, nos packagings, en fait, tout repenser. Donc ça a pu être pris comme un point positif dans certains cas.
Très bien, on doit s'attabler ou on peut aller chercher à emporter à Decelles et d'Ardoise à Orléans, notamment aussi pour leur prix très gentil sur les plats sur place. Je me suis par exemple régalé d'un velouté de cèpe et cèpe grillé, quinoa et boulgour à l'huile de noisette, 7,50 €. Mais l'offre à emporter est aussi très alléchante avec une carte qui fait très envie, endives braisées au miel, pain d'épices et chèvre frais, 5,80 €. Un lapin à la moutarde de Martin. Martin Pourret, la vedette locale pour la moutarde et le vinaigre d'Orléans, 12 €. Et puis il y a une très belle carte de Noël où il propose vraiment des saumons gravlax, des terrines de foie gras et des choses à prix tout à fait accessibles. Franchement, allez-y. Et Claire, la femme de Maxime est en salle, elle prépare le gâteau de mamie Paulette et la tarte au sucre de sa grand-mère qui ont beaucoup de succès. Et puis enfin, je me tourne vers Antoine Gerbel car je me suis fait couler un verre d'une cuvée très très glouglou. Pétaradante de fruits avec une belle souplesse et l'expression aromatique du Cabernet Franc. C'est la cuvée Anami, un irrésistible Saumur Champigny. Vous connaissez la maison, le domaine?
Ah oui, Sébastien Bobinet et Emeline Calvez qui, depuis 2002, bouge les lignes sur le Champigny en vin naturel. Oui, c'est de plus en plus précis, c'est superbe.
Et Anami, c'était vraiment extraordinaire en millésime 2017. Voilà, on vous invite à découvrir ce vin. De Celles et d'Ardoise, 44 rue du Faubourg Bannier à Orléans. Faites-leur un coucou de la part dont on va déguster. C'est d'ailleurs l'une des adresses que l'on retrouve dans Je m'en food. Un guide gratuit, autofinancé, sans pub, avec que des bonnes adresses à Orléans, concoctées par Charlotte, Julien et Vincent, qui tiennent à défendre la restauration de qualité et l'artisanat de bouche dans leur ville Orléans et sa région. Voilà, il est là, ce petit guide. Il est vachement bien, très très bien fait, avec un joli graphisme. On peut les suivre aussi sur les réseaux sociaux où ils sont très actifs. Toutes les infos sur franceinter.fr à la page On va déguster. Je me tourne cette fois vers Xavier Mathias, qui voulait nous faire part à la fois d'une bonne nouvelle et d'un petit coup de cœur. On va commencer par la bonne nouvelle, Xavier.
Alors, la bonne nouvelle, effectivement, c'est que pour un frimeur comme moi, nous avons remporté avec ma compagne le concours de la plus longue. C'était de bonne manière. Donc nous avons officiellement la plus longue. Ce qui pour un peu frimeur est très très bienvenu.
De quel objet s'agit-il?
Non, il s'agit d'une calebasse, hélas. Et néanmoins, c'est aussi l'occasion de rappeler que voilà, il y a plein de jardins potagers qui se bougent, qui sont géniaux à visiter. En Touraine, on est plutôt bien loti. Et donc, on a le conservatoire du château de Balmer qui est vraiment génial. Coup de gueule.
Attends, juste une chose, pardon. Vous nous avez pas donné la mesure, si?
Non.
Alors, là, parce que là, calebasse, oui, racontez-nous juste qu'on a affaire quand même à une cucurbitacée.
Ouais, voilà.
Combien de centimètres?
Une lagenaria. Et donc, malheureusement, je suis pas super fier, parce qu'on peut faire beaucoup mieux. Donc, 1m66.
Ah, attendez. 1m66, je sors on fait pousser un boa constrictor dans son potager.
Je sors du studio.
Et preuve à l'appui, car la photo du trophée est en ligne sur franceinter.fr à la page On va déguster.
Et donc, mais sachant qu'on peut faire un petit peu plus long quand même, normalement, quand le climat est plus favorable.
Là, et plus chaud.
1m66, c'est un petit peu petit joueur.
Ah, oh, c'est quand même pas mal. Alors, j'évoquais un coup de cœur. Il s'agit en fait maintenant d'un petit coup de gueule.
Oui, un franc coup de gueule. J'ai des amis chasseurs. Hein, moi, je suis un rural. Hein, et la ruralité, c'est pas que la chasse. Loin de là, et que les chasseurs. Donc, j'ai des amis chasseurs à qui je répète, arrêtez de vous battre au renard, c'est insupportable. Sachez que nous, agriculteurs, on souffre vraiment d'une prolifération de campagnols. On les voit partout, même dans les cultures céréalières. Hein, ça commence à être réellement problématique. Dans les cultures potagères, on parle de la patate douce aujourd'hui, mais nous, nos patates douces, ce que j'ai pu amener, moi, c'est les rescapés, en fait. Ça a été un carnage. Donc, voilà, on a un prédateur qui est vraiment intéressant sur les campagnols et les rongeurs, c'est le renard. Je ne vois pas l'intérêt de tuer des renards comme on les tue en ce moment. Qu'on vienne pas me raconter que c'est pour les poules, parce que moi j'ai des poules, hein, mais j'ai un poulailler aussi. Et à ma charge, que le poulailler soit vraiment sécurisé pour mes poules dedans, ce qui les empêche pas de se balader dans la journée. Hein.
C'est voilà. Donc on arrête les battues au renard, on l'a bien compris, prédateur essentiel du campagnol, voilà, qui fait des ravages dans nos champs et nos potagers. Le message est passé, cher Xavier, et j'espère que vous serez écouté par vos amis chasseurs, et ouais, voilà, amis...
J'en profite pour un vrai coup de cœur pour La Hulotte, le journal le plus lu dans les terriers.
Je suis abonné depuis l'âge de 14 ans.
Voilà. et donc dans La Hulotte, dans le dernier numéro qui est sur le Merle, à propos des chasseurs, ils parle des protecteurs armés de la nature, en parlant des chasseurs. Voilà, on n'a pas besoin d'armes, hein, pour protéger la nature.
Absolument.
Je le rappelle.
Formidable magazine rural et leçon de choses sur l'ornithologie, les insectes, etc. C'est passionnant. Derrière la vitre de la régie pour mitonner à feu doux cette émission en direct sur la patate douce, Laurent Thomas, Guillaume Roux, Nadia Chougui, Djoubaka pour la programmation musicale. Bah justement, en parlant de musique, on va prendre la route à la fois des Antilles et de la patate douce, accessoirement, avec Delgrès, c'est Mola. On a faim sur France Inter.
vous plaît pas, laissez-moi vivre.
Et si à chaque fois que vous employez ce mot patate avec une intention négative, vous ne vous blâmiez pas, vous ne vous jugiez pas, mais immédiatement vous ajoutiez, mentalement au moins, douce. Non seulement passant de solanum tiberosum à hypomea batatas, vous changez de genre et d'espèce, mais en plus, vous constaterez rapidement, vous aussi, combien l'intention change. Prenons quelques exemples au hasard. J'en ai gros sur la patate, douce. Si tu continues sur ce ton, je vais te mettre une grosse patate, douce. Ce matin, j'ai la patate, douce. Mais alors celui-là, quelle patate, douce. Magique, n'est-ce pas? Inutile de me remercier, c'est tout naturel. Je suis aussi là pour ça. Voilà, ça c'est un extrait de la prose de notre ami Xavier Mathias dans son livre Potager d'un frimeur que vous avez signé aux éditions Terre Vivante. Je me lasse pas de citer ce livre que j'aime beaucoup et notamment pour cette raison-là. Pour votre façon spécifique, singulière, poétique, sensible de nous raconter les légumes. Il y a comme un paradoxe dans l'expression patate douche. Si je commence à dire patate douche, ça va pas le faire. Un oxymore dans cette expression. Patate, c'est un peu péjoratif, presque argotique. Alors que douce, au contraire, c'est un peu l'adjectif qui arrondit les angles, qui anoblit en quelque sorte la patate.
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire assez drôle. Donc patate, donc hypomea batatas. Donc c'est ça désignait quand même la patate douce avant que nos amis québécois, qui eux désignaient quand même en fait la pomme de terre par ce mot patate. En fait, les Québécois introduisent un mot et les Canadiens qui viennent en concurrence avec notre patate douce. Donc la patate douce, néanmoins, elle s'est vue attribuer ce nom-là aussi, qui est pas super flatteur, parce que c'est un légume souterrain et que les légumes souterrains avaient pas très très bonne presse malgré tout, surtout quand ils viennent des colonies, tout simplement. Enfin, quand ils sont, ils viennent pas forcément, mais quand ils sont connus aux colonies. Donc patate douce, oui, maintenant ça sonne comme un oxymore, parce que patate a désigné la pomme de terre et que on voit toute la charge négative qu'il y a sur ce malheureux mot, je dirais.
Pomme de terre solanacée et patate douce alors?
Convolvulacée. Donc même famille que liseron en fait. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont la chance de pouvoir cultiver des patates douces dans leur jardin, en fin de saison, quand les patates douces fleurissent, on s'aperçoit que la fleur est étonnamment proche d'une fleur de liseron. Très très belle, ça fait de la patate douce, quand même une plante assez magnifique, un très très joli couvre-sol. Les feuilles sont ce qu'on appelle cordiformes, c'est-à-dire en forme de cœur, ce qui fait quand même vraiment plaisir, ce qui est très joli. C'est pas réellement une plante grimpante, mais c'est une plante qui vient se hisser,
qui fait quand même des lianes. Hein. Moi j'ai un truc à la maison, c'est d'utiliser la patate douce en lui mettant les fesses dans un vase, dans un peu d'eau, et ça fait des lianes qui montent à 4 mètres et qui grimpent sur ma bibliothèque dans mon salon. Alors, il faut les accrocher un peu, en effet. Voilà. La patate douce n'a pas la capacité de s'agripper, mais en tout cas, ça fait vraiment une liane tout à fait étonnante.
Ah oui, c'est absolument magnifique de la cultiver aussi chez soi. Après, encore une fois, pour les jardiniers, surtout, mais faites comme François Régis et mettez-la le cul dans l'eau, pour reprendre son expression, avec un petit morceau de charbon de bois, d'ailleurs, pour pas que l'eau croupisse, et après prélever des boutures, bouturer en godet, et puis planter là, quand les gilets sont plus à craindre. Vous allez voir, c'est tout à fait étonnant, c'est une culture qui est relativement facile.
Mais alors, on a l'impression que c'est un fruit exotique qui doit pousser sous des climats tropicaux, alors qu'en fait, elle s'est très bien adaptée à nos latitudes.
Alors, il y a eu plusieurs choses en fait qui sont passées, c'est finalement assez adapté, mais on a aussi un changement climatique. Quand Joséphine de Beauharnais lance la culture de la patate patates douces relance cette culture. Nous, on a découvert les patates douces en 1750 à peu près en France, et il faut attendre Joséphine de Beauharnais pour voir vraiment des cultures de patates douces. Elle les faisait sous serre, mais attention, le climat.
Et expérimentait, je crois, au château de la Malmaison, voilà, en région parisienne qu'elle occupait.
Voilà. Et mais attention, je pense aussi que le climat change. Et c'est à ça qu'on le voit, les patates douces, elles ont de plus en plus la température qu'il leur faut. Là où ça va se compliquer pour la produire, mais techniquement maintenant, bah voilà, on a le matériel pour, c'est qu'il faut pouvoir la mettre en végétation très tôt, au printemps, ce qui était compliqué à faire à l'époque, et surtout, et ça, là j'en profite pour les auditeurs fans de patates douces, surtout, même si c'est une racine, ça se conserve au chaud. Ce qui est tout à fait étonnant, et ce qui devait poser une vraie difficulté à l'époque. Comment on fait pour tenir un bon 14 degrés en plein hiver pour conserver les patates douces? Donc surtout, voilà, amis auditeurs qui a acheté des patates douces, vous pouvez les stocker, vous pouvez les garder sans aucun problème plusieurs mois, à condition qu'elles ne soient pas blessées. Et au chaud. Et là, c'est vraiment génial. Vous allez la garder. On peut faire, nous, notre record. On a fait le tour complet. On a fait une année.
Une année avec une patate douce conservée au chaud. C'est bon à savoir, à l'abri de la lumière, j'imagine aussi, évidemment. Sinon, elle a tendance à germer.
Voilà, un petit éclairage indirect, ouais.
C'est ça. Antoine Gerbel, une question très intéressante d'un auditeur ou une auditrice.
Une auditrice, Sophie, nous demande, patate douce, point d'exclamation, féculent ou légumes?
Ah bah alors ça tombe très bien quand j'ai le sol là, parce que c'est pas du tout ma partie en fait. Pour moi, ça c'est le cuisinier qui décide. Hein. Parce que ce que je peux dire, c'est que c'est pas un fruit, parce que c'est pas issu de la fécondation d'une fleur et que ça contient pas de graines. Botaniquement, c'est une racine, c'est une des rares racines qu'on mange. Et alors Angèle?
Et alors Angèle, on lui pose la question justement.
Bah on la considère comme un féculent au niveau de la digestion quand même.
C'est ça.
Alors, elle est beaucoup moins amidonnée que la pomme de terre. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que les frites sont moins croustillantes et tout ça. Mais c'est que ça reste quand même un féculent.
Et il paraît même que pour faire la différence avec la pomme de terre, il y a notamment une différence très surprenante en termes d'indice glycémique.
Oui, ça c'est vraiment incroyable parce que la pomme de terre a un goût plutôt salé. Enfin, on a l'habitude de l'utiliser en salé. Et la patate douce, ce goût bien sucré. Donc on aurait tendance à croire qu'elle est plus calorique, que l'indice glycémique est plus élevé. Mais en fait, pas du tout.
Incroyable.
Et son indice glycémique est plus bas que la pomme de terre, presque de moitié. Et je me demande si c'est pas une des raisons pour laquelle elle est revenue à la mode dans les milieux de la cuisine saine, etc.
Et notamment dans les cuisines de la guinguette d'Angèle, les comptoirs parisiens où vous faites une très belle cuisine végétale. Angèle, quand je vous ai contacté pour faire cette émission, on s'est dit mais c'est Angèle Ferromac qui doit nous parler de patate douce. Je vois défiler pas mal de recettes à la patate douce sur votre compte Instagram. Vous m'avez envoyé une liste, mais alors long comme le bras. Il y avait des dizaines de recettes. Choisis là-dedans, j'ai tout essayé, etc. Alors évidemment, on a fait une sélection, mais ça veut quand même bien dire que vous êtes allé explorer tout le potentiel de ce légume en dessert, en salé, de toutes les façons.
De toutes les façons, parce qu'en fait, elle a cette consistance facile, elle a ce goût facile aussi, on peut l'utiliser de plein de façons, évidemment. On peut en faire des veloutés en ce moment, citron vert par exemple, avec un petit peu de crème. On peut en faire des gnocchis, des gratins, des crumbles, des hash browns.
Des
hash browns.
Parlez-nous français, Angèle, s'il vous plaît.
C'est de la, vous savez, cette pomme de terre râpée avec qui est délicieuse, bien croustillante, qu'on adore manger dans les restaurants américains. On peut le faire évidemment avec de la patate douce. On peut en faire des bouillons de toutes nos épluchures. On peut faire des muffins, des tartes, des glaces, des brownies, des infusions, des condiments, des houmous, enfin on
formidable.
Peut faire plein de choses.
Et dites-moi, première stratégie pour ne pas trop effrayer les auditeurs qui se méfieraient beaucoup de la patate douce, qui en clair ne l'auraient jamais convoquée dans leur cuisine. La façon la plus simple, moi c'est comme ça aussi que je l'ai pratiqué, c'est comme ça que je l'ai apprivoisé ce légume, et alors là pour le coup c'est totalement décomplexant, c'est une patate douce, même pas épluchée, taillée en deux dans le sens de la longueur, et la suite ça se passe au four.
C'est tout simple, et François-Régis, cette recette, ça fait partie des trucs qui ont un peu révolutionné ma cuisine, parce que moi, je ne la tranche même pas. Je pousse la flemme à simplement la rincer sous l'eau.
Donc et entière.
Je mets entière ma patate douce au four, ou mes patates douces selon le nombre de convives. Je la mets au four à 180 degrés pendant 40-45 minutes, et je les sors, et c'est tout. Je les mets dans les assiettes avec une petite salade.
C'est ça.
Les gens l'ouvrent à l'intérieur. En fait, ça cuit dans sa propre vapeur, ça a caramélisé tout seul, c'est délicieux. Et après, on peut mettre dessus des haricots rouges, de la salade, des graines ou rien.
Moi, j'ai un peu imité Otolenghi en y émiettant une plaque de feta. Par-dessus, vous servez ça avec une salade d'herbes fraîches joliment assaisonnée avec une huile d'olive un peu ardente. Et je peux vous assurer que la patate douce, ça se passe vraiment très très bien dans l'assiette. Vous avez une remarque, Xavier ?
Ouais, non, une technique très proche. En fait, on a la chance de chauffer au bois et donc d'avoir un poêle. Et dans ce poêle, on met le diable. Vous savez, ce fameux diable en terre cuite. Alors là, il n'y a rien à faire. Hein. Oui. Effectivement, hein, avec les patates douces, hein. On ouvre le diable, on a lavé les patates douces, on les pose dedans, on ferme le diable, on met dans le poêle et on attend une demi-heure. C'est ça à peu près. Et c'est incroyable, incroyable.
C'est vraiment délicieux. Et comme la peau est très épaisse de la patate douce, en fait, ça va vraiment faire comme une papillote, en fait. Et la chair va confire à l'intérieur.
Question piège, Angèle Ferromag. Tentez de me définir, à la fois en termes de texture, mais aussi en termes de saveur, le goût de la patate douce. Alors évidemment, dans patate douce, il y a douce, donc il y a de la douceur.
Alors oui, elle est sucrée, je pense qu'elle est un peu farineuse, ouais. mais elle se rapproche
farineuse,
de la
mais
couche,
un temps fondante aussi.
Farineuse et fondante. C'est pour ça qu'on peut se poser la question d'ailleurs si c'est un amidonné ou un féculent, parce que elle a ce côté un peu... Elle est en même temps presque onctueuse et en même temps on peut en faire comme du marron. Je sais pas, Xavier.
Ah, comme des marrons, ça c'est intéressant parce que Alexandre Dumas justement dans son grand dictionnaire de cuisine qui date de la fin du 19e compare sa saveur à celle, je cite, des bons marron. Vous êtes d'accord sur ce goût de châtaigne ?
Oui, d'ailleurs, goût de châtaigne qu'on peut retrouver chez d'autres légumes, texture parfaite chez les courges.
Et notamment le potimarron.
Voilà, ou même on a une courge qui s'appelle sweet potato, donc patate douce, hein, tout simplement, qui est vraiment très très bonne.
Proximité de couleur et de saveur.
Voilà, et puis aussi, quand même, une chance incroyable, c'est que, et c'est pour ça que nous, les bio, on a bien aimé la patate douce, c'est parce que ça nous permet de diversifier en hiver, sans faire venir des légumes de l'autre bout du monde, etc. Donc on a une alimentation qui est douce, qui est facile à préparer, etc. Avec un légume, les légumes l'hiver, c'est les radis noirs, les choux, les poireaux, je caricature à peine. Et là, d'avoir ramené en complément de nos courges, les patates douces, c'est vraiment, mais vraiment génial.
Et ben justement, et on va voir que les maraîchers bio dont vous faites partie, évidemment, cher Xavier, ont contribué. Non, ils n'ont pas que contribué, ils ont fait le revival, le succès de la patate douce depuis quelques années. Antoine Gerbel.
Question courte, réponse courte. Gérard en Vendée demande patate douce crue en salade.
Alors. Very good question.
Moi, j'aime pas trop utiliser la pomme de terre et la patate douce crue, même si j'adore les tubercules comme le topinambour, l'oca du Pérou, etc. Mais la patate douce qu'on peut consommer crue, ce sont les feuilles. Et quand François Régis en cultive chez lui, ou qu'on peut même d'ailleurs sur tous les petits balcons citadins, parce que ça dégouline, c'est assez magnifique d'avoir sa patate douce. Et en fait, on peut consommer les feuilles, elles sont très bonnes. Donc, en salade, sautées, dans des gratins, dans des farces, etc., ça apporte. Pour moi, c'est la façon de manger la patate douce crue. Si on la consomme crue, parce que c'est possible, on peut la râper ou en faire une petite semoule et la mélanger à autre chose.
Vous évoquiez, chère Angèle, les feuilles de la patate douce juste avant d'en venir, parce qu'on trépigne votre crumble de patate douce, parmesan et romarin. Nous voulons la recette. Le profil nutritionnel en plus de la patate douce ne gâche rien. Il est super intéressant et notamment au niveau des feuilles.
Exactement. Alors, les feuilles de la patate douce, elles contiennent plein de bonnes choses, comme tout ce qui est très vert, ça contient de la chlorophylle, ce qui est assez intéressant pour oxygéner nos cellules. Elles contiennent du fer, des minéraux, plein de choses. Mais même la patate douce elle-même, en fait, comme elle est colorée, tout ce qui est coloré contient de la bêta-carotène, qui est un précurseur de la vitamine A. Donc ça peut nous aider pour une bonne vision nocturne, notamment. C'est des antioxydants, ça contient de la vitamine C, etc. Donc la patate douce est intéressante nutritionnellement. La pomme de terre aussi, hein, je suis pas en train de la maudire, mais donc voilà, moi j'adore la cuisiner et en crumble, je trouve ça assez rigolo.
Et ben voilà, on y vient, et là, le crumble en plus. Ah, si, il est là, il a circulé autour du plateau dont on va déguster. Chers amis, Xavier, Antoine, on déguste, et vous nous racontez cette recette, chère Angèle.
C'est parti. Alors, pour ce crumble, il vous faudra 800 grammes de patate douce. Je parle en grammes parce que pour la patate douce, on peut vraiment trouver des tailles différentes. Des tout petits, des très grosses, donc parfois il en faudra qu'une ou trois petites. On va prendre aussi deux oignons ou quatre échalotes. Moi, j'aime bien mettre de l'ail, j'ai mis pas mal d'ail, quatre gousses d'ail, une bonne branche de romarin frais, frais, de l'huile d'olive, et on peut ajouter de la muscade, du poivre écrasé, on peut même mettre du gingembre si on veut, enfin on peut vraiment s'amuser. Donc on va commencer par couper en dés notre patate douce, on va émincer nos oignons, les faire dorer à feu vif dans une cocotte avec la branche de romarin, et on va fermer la cocotte. Pendant ce temps-là, on va préchauffer le four à 180 degrés et on va préparer notre petit crumble. Donc on va mélanger, là c'est facile à retenir, pour le crumble de légumes d'ailleurs, c'est valable pour la patate douce, mais pour presque tous les légumes, à part ceux qui contiennent trop d'eau ou les crucifères. Pour faire un petit crumble salé, on va mettre autant, donc un temps pour temps, de parmesan râpé, beurre frais et farine. Moi, j'aime bien mettre de la farine de petit épeautre, ça apporte un bon petit goût.
Ah, je suis d'accord, le goût du petit épeautre, un peu biscuité.
Exactement, et délicieux. Donc là, j'ai mis 130 grammes donc de parmesan, de beurre frais et de farine de petit épeautre. On va mélanger ça en l'émiettant, faire comme un crumble sucré, en fait. Et si vous voulez une version végétale, d'ailleurs, vous pouvez mélanger la farine avec un peu d'huile d'olive et un peu de levure de bière, qui va apporter le côté croquant et le côté un peu umami qu'apporte le fromage. Donc ensuite, quand les patates douces sont bien dorées, on peut les assaisonner avec un peu de muscade, un peu de cardamome, du poivre écrasé ou au moulin. On va retirer la branche de romarin, on va bien en extraire le jus parce que c'est plein de sucre, c'est bien savoureux. Et on va déposer les patates douces dans un plat à gratin. On va émietter dessus notre petit mélange sablé et on enfourne 45 minutes. On peut le servir avec une petite cuillère à soupe de crème fraîche ou de chantilly végétale comme ici.
Qu'est-ce que c'est bon ?
On déguste.
Avec là pour le coup une texture vraiment fondante de la patate douce, le côté croquant et effectivement très sapide de ces grosses miettes bien croustillantes. Vous en pensez quoi, Xavier ?
Moi je trouve ça extrêmement bon, mais il est difficile de faire quelque chose qui soit vraiment désagréable avec la patate douce, que j'adore là vraiment, c'est la présence de l'ail. Parce qu'on c'est quelque chose qu'on n'a pas et d'évident. C'est mais l'ail et la patate douce, ça passe très très bien ensemble. Et là, la présence de l'ail est vraiment super.
Antoine, ça vous va cette recette?
Oui, moi c'est une entrée pour moi. Et je mets un peu de mâche. Et je mets un peu de mâche fraîche, un peu de justement de. Je trouve une salade qui va emmener en plus la fraîcheur.
Et ça tombe bien, la suite va arriver. Et petite précision importante, vous avez épluché les patates douces dans ce cas.
Je les ai épluchées dans ce cas, c'est pas obligatoire.
C'est pas obligatoire, d'accord. Et si on les épluche, on peut récupérer
les épluchures.
Deux patates douces pour en faire quoi ?
On peut en faire plein de trucs, des bouillons, des infusions, mais là j'en ai fait aujourd'hui du gomasio.
Il est là. Alors, c'est la petite poudre que vous avez au sein de votre
cette
assiette.
Petite poudre qui est un peu salée. Alors c'est un condiment qui nous vient du Japon,
c'est ça.
Qui est assez à la mode aussi en ce moment parce qu'en fait ça nous permet non seulement de beaucoup moins saler nos plats, mais en plus d'apporter des bienfaits parce que le sésame contient plein de calcium, donc c'est assez intéressant. Et le goût torréfié du sésame va décupler le goût du sel. Donc en fait, ça va nous permettre d'avoir le goût salé en salant beaucoup moins. Donc pour faire le gomasio, c'est assez simple. On va récupérer nos épluchures de patates douces. Alors là, on peut les faire sécher sur un radiateur, au four si on n'a pas le temps, sur un déshydrateur. Enfin, moi j'aime bien ne pas utiliser trop d'énergie, donc en général, je les laisse sécher sur
un radiateur.
Un plateau
sur un radiateur, c'est super.
C'est parfait, ça marche très bien. On va faire torréfier à peu près une vingtaine de cuillères à soupe, j'aime bien parler en cuillères à soupe, ça évite de sortir les machines, de graines de sésame complètes. Donc on va les faire torréfier à sec, donc sans huile, sur une poêle. Et quand l'odeur sera, tout d'un coup on a une odeur délicieuse dans toute la cuisine, on sait que c'est bon, là on va les retirer, les laisser un peu refroidir, et on va mettre deux cuillères à soupe de sel non raffiné. Donc c'est une cuillère de sel pour 10 cuillères de sésame, c'est ça le rapport. Ensuite, on va pouvoir tout simplement émietter nos épluchures de patates douces, donc on va un peu les écraser grossièrement à la main. Après, on peut le faire ou au mortier ou au mixeur, et on va simplement mélanger, amalgamer cette petite poudre, et ça nous fait un condiment à mettre sur la table. Et moi, j'aime bien
légèrement sucré salé.
Exactement, et moi j'aime bien pour ma famille ne jamais ajouter de sel, de poivre, de sucre, mais que chacun puisse doser. Comme ça, ça permet vraiment de découvrir les vrais goûts, les vraies saveurs.
Pour rehausser un poisson, une poêlée, des légumes vapeur, c'est le gomasio.
Le gomasio, c'est délicieux.
Et en plus, de patate douce.
On va profiter de tous les bénéfices de la peau de la patate douce qui contient énormément de minéraux et de vitamine B.
C'est ça. Dans un instant, on va continuer à parler avec l'ami Mathias des différentes variétés qu'il nous a apportées, car la patate douce n'a pas forcément la même forme et la même couleur selon les cas. Il y a beaucoup de questions aussi que nous posent nos auditeurs sur les origines de la patate douce et pourquoi un tel dédain à l'égard de ce fruit. Tout ça, ça va se passer juste après ça.
Mmh. love when it comes without a warning. Cause waiting for it gets so boring. A lot can change in 20 seconds. A lot can happen in the dark. Love when it makes you lose your bearings. Some information's not for sharing. Use different names at hotel check-ins. It's hard to stop it once it starts. It starts. I'm not sentimental, but there's something about the way you look tonight. Makes me wanna take a picture, make a movie with you that we'd have to hide. You better lock your phone. You go. I'm sorry if it's torture though. I know, I know. It might be more of an obsession. You really make a strong impression. Nobody saw me in the lobby. Nobody saw me in your arms. I'm not sentimental, but there's something.
Titre de Billie Eilish, Billie Bossa Nova, et au menu, on va déguster la Bossa Nova de la patate douce. Vous êtes bien sur France Inter.
France Inter. François-Régis Gaudry. On va déguster.
La patate douce, cela coule douce sur le plateau dont on va déguster avec pas mal de réactions d'auditeurs. Antoine, allez, une petite réaction pour évoquer notamment les usages très exotiques de la patate douce.
Alors Anna dit, je suis argentine, chez moi on mange la dulce de patata, ça veut dire la pâte de fruits faite avec de la patate douce, on le mange en dessert avec du fromage ou sinon des petites patates douces en sirop. C'est bon, merci.
On a beaucoup de réactions aussi, évidemment d'un morceau de France qu'on a déjà évoqué pour la raclette la semaine dernière, parce qu'on apprenait qu'à La Réunion, on mangeait aussi, on produisait de la raclette, figurez-vous. Mais on nous dit évidemment, puisqu'on est très écouté là-bas, que la patate douce intervient dans les curries, évidemment, mais est aussi à l'origine d'un dessert emblématique très familial qui s'appelle tout simplement le gâteau patate. Ils n'ont pas besoin de mettre douce là-bas pour comprendre que la patate, ça désigne la patate douce. Il y a notamment Mina Mouelim sur Instagram qui me dit, moi je fais mon gâteau patate avec une petite touche de rhum, évidemment. Thierry Kasprowitz, notre confrère de La Réunion qui est critique gastronomique là-bas, nous dit aussi que c'est un dessert emblématique. Il n'y a pas une famille réunionnaise où l'on ne mange pas ce gâteau patate, qui est une espèce de flan en fait. C'est vraiment de la patate douce écrasée, enfin cuite, écrasée avec des œufs, avec parfois un peu de cannelle, du rhum, et ça donne un flan absolument extraordinaire. On va évoquer évidemment la patate douce au rayon sucré, mais il y a une autre réaction d'auditeur pour notre maraîcher Xavier Mathias.
Voilà, il se dit que la culture de la patate douce induit une très importante consommation d'eau. C'est vrai, Xavier?
C'est vrai, oui.
Aurait-elle enfin un défaut?
Ah, quand même. C'est vrai, oui et non. Moi, j'ai vu au Mali, sur les hauts de Bamako, il y a pas beaucoup d'eau. Hein. Des cultures de patate douce.
Vous êtes allé au pays d'Ogon, notamment.
Voilà aussi, ouais. Et des cultures de patate douce qui étaient destinées à faire un paillage vivant pour des amarantes qu'on plantait dans ce paillage. Donc la pâte douce n'a pas besoin d'eau. Effectivement, si on veut la faire tubériser à mort et avoir des gros tubercules énormes et battre le record du monde du plus gros cette fois, on peut envoyer de l'eau. Mais non, la patate douce, c'est pas une culture exigeante en eau. Après, on va calibrer son irrigation en fonction du nombre et de la grosseur des tubercules qu'on a, sachant que plus un tubercule est gros, plus il est aqueux, moins il va se conserver.
D'accord.
Donc nous, en bio, on essaye de tirer sur la matière sèche au maximum, sans stresser la plante, par contre. Donc non, c'est pas une culture gourmande en eau.
On a vu que la patate douce était donc acclimatée depuis maintenant plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, sous nos latitudes, et pourtant, il faut démêler le fil de ses origines, sa généalogie, et là, il y a eu des controverses, parce qu'il est vrai que la patate douce, on l'assimile à la Polynésie, on l'assimile à l'Amérique du Sud, on l'assimile aux Antilles, même à l'Afrique. Ce légume est vraiment consommé dans toutes ces aires géographiques. D'où vient la patate douce ? Est-ce qu'on a réussi à définir son origine ?
Alors, c'est très compliqué, effectivement, c'est sujet à beaucoup de controverses. Néanmoins, l'origine de la patate douce, là où on en a retrouvé des restes les plus anciens, c'est une zone entre le Yucatan au Mexique et l'Orénoque au Venezuela.
Donc Amérique centrale.
Voilà, Amérique centrale. Après, il y a eu trois diffusions principales. Néanmoins, l'origine, elle est là. Il est vrai que c'est tout à fait étonnant et que ça remet aussi beaucoup en question la vision qu'on avait des échanges entre différents peuples, le fait que les patates douces, après, on la retrouve partout. Je rappelle que la Chine est quand même le premier pays producteur mondial de patates douces.
Incroyable.
Ce qui est tout à fait étonnant, on la produit beaucoup en Afrique, on la produit beaucoup en Inde, etc. Néanmoins, son berceau d'origine, ce serait voilà, cette zone comprise entre le Yucatan et l'Orénoque.
Alors, la chose paradoxale, pour parler de la sociologie de ce légume, l'énorme paradoxe, c'est que on le connaît depuis très longtemps sous nos latitudes. Vous évoquiez les essais de culture au château de la Malmaison par Joséphine de Beauharnais, et ce légume n'a jamais acquis ses lettres de noblesse dans notre cuisine. Vous cherchez des traités de cuisine du 19e siècle, aucune recette à la patate douce, alors qu'on trouve des dizaines, voire des centaines de recettes avec la pomme de terre. Et pourtant, la pomme de terre est tout aussi étrangère, entre guillemets. Donc, a-t-on eu de la xénophobie à l'égard de cette patate douce? Que s'est-il passé, selon vous?
Eh ben moi, oui. Effectivement, j'y vois une forme de xénophobie, et puis osons le mot, de racisme carrément, puisque la patate douce, on l'a associée aussi aux cultures coloniales, hein, quand même. Et c'était une nourriture de basse extraction au sens propre du terme. Elle avait aussi un autre défaut, la patate douce, parce que nos goûts n'allaient pas du tout vers le sucre. Hein. Donc la patate douce, contrairement à la pomme de terre, la patate douce, elle est, même si elle peut être plus amidonnée quand elle est plus blanche, elle est quand même clairement plus sucrée. Et c'était pas du tout du goût de l'époque, hein, quand même.
Et puis par ailleurs, citons quand même, alors là je mets 17 guillemets, et je ne veux pas de mail d'auditeur, je cite Alexandre Dumas. Hein. Accrochez-vous quand même. Dans son grand dictionnaire de cuisine, les patates douces, je cite, servent en grande partie de nourriture aux nègres des Antilles, et leur fan, qui est fort recherché des bestiaux, surtout des vaches, augmente et bonifie le lait de celles-ci. Donc en gros, soit c'est une nourriture d'esclaves, soit c'est une nourriture de bestiaux.
C'est exactement ça, en fait. Hein, on a vraiment regardé d'un œil très méprisant cette patate douce, et Joséphine de Beauharnais était d'origine créole aussi. Donc malgré tout, il y a quand même une distance toujours qui s'est fait, et pourtant Villemorin et Andrieux l'ont testé, enfin voilà, on la connaît cette culture vraiment, et merci les maraîchers bio.
Ah, on y vient, parce que bah ouais. J'allais vous demander comment on allait expliquer justement, là pour le coup, à l'inverse, le succès récent depuis quelques années de la patate douce qu'on trouve désormais partout, chez le moindre primeur, souvent cultivée en France, ce qui est une très bonne nouvelle, et effectivement, les ambassadeurs de la patate douce ont été les maraîchers bio, Xavier Mathias.
Bah oui, parce que patate douce, on n'a pas de ravageur ni de maladie spécifique. Grosso modo, on n'a pas de doryphore et pas de mildiou. Après, on peut avoir des ravageurs généralistes. Et je parlais des campagnols tout à l'heure, mais on n'a pas de spécifique. Et donc, nous, ça nous a plu. En plus de ça, on n'est pas mécanisé, peu mécanisé. Donc, on n'a pas besoin d'une arracheuse spéciale. Voilà, quand on est mécanisé, la lame souleveuse, très généraliste, suffit à tout le monde. Donc, on a pu mettre ces cultures culture là en place avec, je nous donne des gants, mais je, de temps en temps ça fait du bien quand même, le soin tout particulier qu'on apporte à la préparation de nos sols et à la fertilisation de nos sols, qui fait que sur les patates douces, on avait de bons résultats. Pas cette année, il a fait trop froid.
Avant de... mauvaise saison pour les patates douces cette année. Avant de passer au sucré avec Angèle Ferremag, la pause liquide et la petite énigme bachique de notre ami Antoine Gerbel.
On va déguster sur France Inter.
Nous en étions, cher Antoine, à globalement champagne mais sans bulle.
Voilà, la champagne c'est se faire mousser sans bulle.
C'est ça.
Exactement. Je rebondis juste sur un propos que Xavier dit, avant le goût n'était pas au sucre. Avant, je vais justement vous parler de cet avant, la champagne. Alors c'est, je remets un petit peu la champagne en perspective. La champagne c'est deux départements, la Marne et l'Aube. C'est à peu près 34 300 hectares. En gros, tous les beaux coteaux bien exposés au long de la Marne et ses affluents sont plantés de vignes. Il y a trois appellations. Vous la connaissez, la première, c'est champagne. Tous les raisins produits en champagne peuvent produire du champagne. Et je vous rappelle qu'on produit du champagne qu'en champagne. Quand vous dites, oh, j'ai un bon petit champagne de Bourgogne ou un bon petit champagne d'Alsace, non, ce n'est pas du champagne, c'est un crément. Alors, la grosse appellation champagne, la seconde appellation, c'est celle-là qui nous intéresse, c'est coteaux champenois, c'est-à-dire des vins rouges, blancs ou rosés, comme les vins traditionnels, classiques, sans bulles, on appelle ça des vins tranquilles. Et puis, une troisième petite appellation, encore méconnue, s'appelle rosé des Rissets. Et là aussi, c'est une appellation qui fait du vin tranquille, rosé. Et on va s'intéresser à cette histoire. Alors la champagne, avant que la bulle soit créée, on sait toujours pas par qui. Hein, on se pose toujours les questions. Les historiens travaillent. Bon, je pense que c'est parce qu'à un moment le vin a voyagé, le vin s'est mis à pétiller, que ce soit dans les fûts ou que ce soit dans un peu plus tard dans la bouteille. Mais cette magie de l'effervescence a changé complètement la face du vignoble champenois, qui produisait des vins qui étaient des grands concurrents dans les cours royales avec les Bourgognes, parce que c'était très proche, on pouvait se déplacer, et donc le vin blanc, et notamment parce qu'il ne tachait pas les nobles, était de champagne, était particulièrement recherché. Et puis il y a cette champagnisation qui arrive, 17e, 18e, 19e, et là, on arrive dans l'ère presque industrielle de la champagne, puisque la champagne, on sait que ça fait énormément de bouteilles, 330 millions de bouteilles, dont, de mon point de vue, deux tiers de champagne fait vraiment de manière assez industrielle. Mais dans les caves, en ce moment, il est en train de se passer une petite révolution. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de néo-vignerons en Champagne. C'est-à-dire, personne n'achète des vignes tout simplement parce que l'hectare est à plus de 1 million 2, 1 million 3 l'hectare. Donc, ce ne sont que des héritiers. Et dans ces héritiers, bah, il y a des gens qui aiment bien continuer à faire ce que fait papa-maman et d'autres qui se bousculent, qui ont envie de faire autre chose. Et pour commencer à s'exprimer tôt, bah, on revient sur les coteaux champenois faire des vins tranquilles parce que un bon champagne, ça met 3-4 ans à s'exprimer. Un coteau champenois, au bout de 2 ans, vous pouvez sortir votre bouteille. Alors, il y a une effervescence. Dans l'Aube d'abord. L'Aube, vous savez qu'aujourd'hui, c'est vraiment, moi je l'appelle le labo de la Champagne, parce que déjà, ils ont des beaux raisins qui sont mûrs, ils sont un peu plus au sud. Donc, la modification du climat ces dernières années a énormément avantagé la création de nouveaux vins tranquilles, puisqu'on arrive à 11, 12 degrés naturellement, sans chaptaliser, puisqu'avant, on va dire, dans les années 70, on continuait à produire des coteaux champenois, c'était archi-acide et archi-chaptalisé. Donc, aujourd'hui, les raisins du sud de la Champagne, notamment, et puis des jeunes, ont, voilà, ils se lâchent complètement. Donc il y a une génération incroyable. J'étais la semaine dernière au Crieur du Vin, vous connaissez bien.
À Troyes,
voilà, où se réunissait une quinzaine de
pour l'andouillette notamment, mais plein d'autres choses.
Mais plein d'autres choses, et notamment c'est un ambassadeur. Il a appelé ça l'Aube sans bulle. Et là il y avait, je vais citer quelques noms, Manu Lassaigne, les Oriot, les Drapier, et toute une jeune génération qui faisait goûter des vins. Alors toute petite production, parce que c'est des tests. En gros, papa maman leur laisse un peu de vigne pour tester, et puis ils s'amusent. C'est presque un vin entre copains. Et puis l'autre problème, c'est que c'est un petit peu cher, parce que le kilo de raisin en Champagne est actuellement entre 7 euros le kilo. Vous savez que c'est les grandes maisons qui achètent principalement ce raisin pour faire ce champagne, et donc impossible pour un jeune de faire un coteau champenois à moins de, dans la bouteille finie, 30-35 euros. Donc voilà, c'est un peu cher, mais ce sont des expériences. C'est-à-dire que si on a une mauvaise image de la Champagne, on trouve ça un peu trop, cette bulle un peu artificielle parfois, même s'il y a des champagnes merveilleux, on le sait bien, eh ben on se fait une idée neuve. Et puis aussi, il faut aller dans l'historique. L'historique, c'est des villes, ce sont des villages, notamment Bouzy. Bouzy, là, on remonte, on est dans la Marne, et c'est dans cette vallée-là, Bouzy, bah, c'est un nom qu'on a tous connu, que nos grands-parents ont connu, rappellent plus que nous d'ailleurs, parce que ils étaient vraiment sur toutes les cartes de Paris dans les années 70. C'était la période où on cherchait à avoir des rouges un peu frais. C'est la période où Sancerre ça a explosé également, où le Saumur Champigny est arrivé aussi un petit peu plus tard. Et ce Bousy, il était noble au départ, puisque la veuve Clicquot, la fameuse veuve Clicquot, avait ces raisins rouges-là, et c'est elle quand même qui a fait le champagne rosé. Et il y a un clos qui s'appelle le Clos Collin, historique à Bousy, où dès le 16e, 17e siècle, on faisait des vins rouges très très réputés, mais du niveau d'un Chambertin. Donc, et à Bousy, ils ont un peu, on va dire, lâché prise pour faire des bons vins sur les rouges, et là aussi ça revient. Là, j'ai fait une super dégustation, je vous en ai amené un, donc on va goûter.
Allons-y.
Dans notre verre, il s'appelle Georges Rémy. C'est un très bon vigneron. Alors il a un mentor hein, qu'on va citer, c'est Benoît Lahaye qui a été récompensé d'ailleurs la semaine dernière comme vigneron de l'année par Goemio. C'est bien qu'on s'intéresse à la Champagne aussi en mettant tous les vignerons au même niveau et en mettant le Champenois dans cette famille-là. Et donc son mentor c'est Benoît Lahaye, c'est un très très bon vigneron. Il avait des vignes superbes. Il n'osait pas faire se remettre à faire du Bousy. Et son mentor lui dit tu vas y aller, c'est très très bon ces jus. Alors voilà, ça c'est le Bousy concentré. Vous voyez déjà la couleur. On est dans voilà moi pour moi je pense que je suis à Gevrey-Chambertin ou à Volnay dans la robe. Après, l'élevage, il est très très minutieux. Un peu trop. C'est un 2019. Il vient juste de sortir, pardon, un 2018. Le boisé est un petit peu marqué, mais ça va se fondre. Voilà, il y a le côté un petit peu chocolaté du bois qui est encore là, mais il y a une très jolie profondeur. À Bousy, il faut aller voir Brice, il faut aller voir Paillard. Enfin, voilà. J'ai mis sur le site énormément d'adresses.
Toutes vos bonnes adresses, il y a une grande liste.
Voilà, entre les classiques et surtout les nouveaux. Et dans les nouveaux, dans votre verre, vous avez un blanc.
Alors là, on passe au blanc, on change de couleur.
Vous changez de couleur, et là, c'est toute la Champagne qu'on imagine. C'est-à-dire que c'est un multimillésime. Mm-hmm. Donc, il y a du 2014, du 2015, du 2017, du 2019 dedans. Il y a du Pinot Meunier, il y a du Chardonnay, il y a du Pinot Noir. Et c'est Franck Pascal qui fait ça. Alors là, on est dans la vallée de la Marne.
Ouais.
Et c'est très intéressant, cette vallée de la Marne qui n'est pas un territoire où il n'y a pas de grands crus dans la vallée de la Marne. Il y a un peu de premiers crus. Et donc, cette génération-là, c'est un vigneron qui a repris, qui fait un travail fantastique en biodynamie depuis une bonne vingtaine d'années. Et ben, voilà, il s'exprime à travers ces vins. Alors, c'est à la fois acide, c'est à la fois mûr, c'est vinifié sans soufre. Et ça, c'est très intéressant. Et ça donne quelque chose de très digeste, surtout en ce moment sur les fruits de mer, c'est des vins de fête. Hein,
Les
fêtes approchent. Voilà, plutôt que de passer directement en Champagne, faites un petit détour par les coteaux champenois.
Parce qu'il y a la question qui fâche des prix, le budget, Antoine, pour ces vins.
Alors là, vos deux vins sont à 30 et 40 euros, ce que je vous dis, c'est très cher. Mais vraiment, toute petite production, occasion, vraiment, voilà, pour les fêtes, pour essayer sur vos huîtres, décaler un peu votre regard et regarder les coteaux champenois, et puis sur les viandes de fête aussi, un coteau rouge, c'est superbe.
Merci beaucoup, cher Antoine. On passe au sucré, évidemment, la patate douce avec une recette de Angèle Ferremac, de pâte à tartiner. Alors là, je suis très curieux. On l'a dans nos...
Alors, vous l'avez dans vos assiettes. C'est une pâte à tartiner qui est très saine et c'est une arnaque totale pour nos enfants. c'est très facile à faire. Il va vous suffire de prendre 500 grammes de patates douces.
Oui.
Vous les faites cuire. Donc moi, j'aime bien les faire cuire à la vapeur pour préserver encore plus tous les bons nutriments.
En les épluchant ?
Pas obligé.
D'accord.
C'est pas obligé. Si ça dépend de votre mixeur.
Okay.
Plus vous avez un bon mixeur, plus vous pouvez laisser de la mâche et de la matière. si vous n'avez pas de mixeur et vous le faites à la fourchette, ce que vous pouvez faire aussi dans ces cas-là, il vaut mieux l'éplucher et plus la cuire. Donc on va prendre 500 g de patates douces, 200 g de chocolat noir pâtissier, pincée de sel gris ou non raffiné, 15 centilitres de crème végétale ou de crème légère si vous voulez, et en option, alors vraiment si vous avez des becs sucrés à la maison, mais c'est pas la peine avec la patate douce, vous pouvez ajouter une cuillère à soupe de miel ou de sirop d'érable. Alors vous pelez, vous coupez en dés, vous faites cuire à la vapeur votre patate douce, et dans le cuit-vapeur vous pouvez mettre un petit bocal avec votre chocolat coupé, comme ça vous fait gagner en plus en énergie, pas la peine d'utiliser plein de casseroles et de faire plein de vaisselle surtout. Et donc une fois que tout ça est bien cuit, que la patate douce est bien tendre, tout simplement, vous mixez tous les ingrédients, vous les mettez dans un pot et ça se garde une semaine au frais.
Et c'est surtout délicieux.
C'est bien.
Il y a la gourmandise des pâtes à tartiner qu'on connaît, et c'est quand même avec une texture onctueuse, c'est vraiment prodigieux.
Et ce qui est intéressant, c'est que cette pâte à tartiner, en fait, on peut l'utiliser même pour faire des truffes au chocolat si on veut. On peut l'utiliser dans les yaourts, on peut faire un glaçage de gâteau, on peut faire notre bûche de Noël à base de cette pâte à tartiner. On peut faire plein de trucs finalement.
Et une recette qu'on va retrouver en ligne sur franceinter.fr, c'est un latte à la patate douce avec des épices, ça c'est aussi une super recette.
Et bah très simple, on fait aussi cuire nos patates douces, à côté on fait infuser notre lait, donc moi j'ai utilisé un lait d'amande par exemple, vous pouvez utiliser celui que vous voulez, avec un bâton de cannelle, un morceau de gingembre, un peu de noix de muscade, des clous de girofle... On fait infuser tout ça. Si vous les avez qu'en poudre, vous pouvez même faire cuire vos patates douces directement dans le lait. Ensuite, pareil, on mixe le tout. Moi, j'aime bien quand on mixe, mettre de l'orange fraîche, du zeste d'orange frais. Et c'est tout. Et vous avez un latte meilleur que dans les coffee shops américains et fait maison.
On va trinquer au latte et au coteau champenois. Il faut remercier aussi les pépinières indigènes. Vous les avez eues au téléphone, je crois, cher Xavier, qui m'ont envoyé UB, la patate douce violette. Il y a une petite ambiguïté. Est-ce vraiment une patate douce? Est-ce un igname? On n'est pas tout à fait sûr?
Alors, c'est ça. Néanmoins, là, c'est une patate douce qui vous a été envoyée. UB désigne aussi un igname. Donc, on va dire, pour schématiser, que c'est la grosse difficulté avec les noms vernaculaires, donc les noms de variétés, etc., qui sont des traductions, et les noms véhiculaires, qui sont les noms botaniques. Et là, c'est bien une patate douce. Elle est bien violette.
Elle est complètement violette. Purple.
Voilà. Est-ce que c'est comme ça qu'on appelle les UB véritablement? C'est un autre débat.
Manger UB. Merci beaucoup, cher Xavier. Vous revenez quand vous voulez. Merci. Pareil pour vous, évidemment, Angèle. La semaine prochaine, nous serons le 19 décembre et à quelques jours du réveillon, on dressera une table de fête dans le studio 611 de la Maison de la Radio. Noël au bistrot avec le super chef Stéphane Reynaud, Elvira Masson, Éric Morin et Jérôme Gagnez seront de la fête à dimanche prochain. Si vous avez encore faim.
France Inter, c'est aussi sur les assistants vocaux. Pour écouter les histoires pour enfants Oli, dites simplement « Lance Oli » et laissez-vous guider.
À la maison, en voiture, sur mobile, France Inter à portée de voix.
Dans un instant, vous retrouvez Thomas Snegaroff pour l'émission « Questions politiques ». Il est midi, vous entendez les bips à l'horloge de France Inter.